Session de philosophie par le père Philippe à Saint-Jodard, le 3 juillet 1991.
Peut-on se poser la question de l'existence d'un être, donc d'une réalité, d'un être premier, indépendamment des traditions religieuses? En théorie, oui. En pratique, non. Je crois. Ça s'est toujours présenté avec les traditions religieuses. Les traditions religieuses sont antérieurs de fait à la philosophie. Pourquoi aujourd'hui la philosophie prend une telle importance? C'est à cause de ces idéologies athées. Et ça a commencé depuis longtemps, puisque le grand-père des idéologies athées, au dire de Sartre, c'est Descartes. Sartre le dit. Si Descartes était à notre époque, il dirait tout simplement qu'il est athée. Étonnez sa philosophie. Puisque tout commence par les idées. Dieu n'est pas dans une idée. Pour Descartes, l'absolu, c'est une idée. Pour certains philosophes, Brunswick, l'absolu, c'est l'équation différentielle, une idée, une proposition. Alors, vous voyez, pour nous, au plan purement réflexion philosophique, je dirais qu'une philosophie qui veut connaître profondément et le plus loin possible la vérité doit nécessairement se poser la question de l'existence d'un être premier. Ça, impossible autrement. Puisque vous comprenez la vérité dernière sur vous. Comme sur moi, on est dans le même sac de pommes de terre, comme disait un philosophe, pour faire comprendre ce que c'était que l'analogie de l'être. Il disait, c'est un sac de pommes de terre. Il y a le sac qui remplit les pommes de terre. Alors on est chacun d'entre nous une pomme de terre. Je veux bien, c'est pas très élégant, mais on comprend ce que ça veut dire. Si je veux savoir la vérité dernière sur moi, mais je suis obligé de dire que je suis une créature. Tant que je n'ai pas découvert que j'étais une créature, je n'ai pas découvert la vérité fondamentale sur moi. Je ne me conduis pas du tout de la même façon si je suis une créature ou si je suis Dieu, quoi. C'est vrai. Vous savez bien cette histoire qu'on raconte toujours dans un asile d'aliénés. On vient visiter, puis il y a tout de suite quelqu'un qui se précipite. Faites attention, faites attention. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire qu'il est le fils de Dieu. Eh bien non, il ne l'est pas, parce que moi je suis Dieu le Père. Alors. Vous voyez bien ça. Heureusement que c'est Dieu le Père qui était d'avant. Mais si, pratiquement, vous savez, pratiquement, quand on nie l'existence de Dieu, on se met à la place de Dieu. Si on creuse bien, pas explicitement, c'est bien évident, mais on se met à la place de Dieu. Tôt ou tard, c'est pour ça que je crois qu'il y a toujours un a priori affectif. On ne peut pas dire ça quand on est en face d'un athée. Hein. peut pas le dire parce que ce serait grossier. Et on doit l'aimer. Ce sont les plus pauvres. Pour moi, ce sont les plus pauvres, les athées. Quand quelqu'un me dit qu'il est athée, j'ai une très grande compassion pour lui. Parce que c'est quand même terrible d'avoir une intelligence aussi bornée qui n'arrive pas à dépasser. Donc on a une très grande compassion pour lui. Ce sont les plus grands, les plus pauvres, de fait. Et donc on doit être extrêmement bon pour eux. On ne doit pas les accabler. Alors quand on s'aperçoit que derrière cet athéisme, il y a un orgueil formidable, ça existe. Ou alors, à ce moment-là, c'est autre chose. Un orgueilleux, en tant qu'orgueilleux, je n'ai pas compassion pour lui. J'ai envie de le remettre à sa place. Mais il y a des quantités d'athées qui subissent l'influence du milieu. Ils ne sont pas assez forts. Ils font comme tout le monde, ils descendent le fleuve. Un athée qui descend le fleuve, ben, on est très compatissant pour lui. Et on arrivera très vite à voir qu'il descend le fleuve. Il ne sait pas du tout pourquoi il l'est. Un athée qui l'est consciemment, ça existe. C'est un peu terrible, ça existe. Alors c'est l'orgueil. Il n'accepte pas qu'il y ait quelqu'un qui soit avant lui. Parce que forcément, si vous acceptez que vous êtes une créature, vous êtes second. La créature est après Dieu. Est dépendant de Dieu. On n'accepte pas cette dépendance. Vous voyez ? Et très souvent, c'est la question. On n'accepte pas une dépendance. Alors là, il y a une parole de Plotin. Il ne faut jamais oublier. Il serait plus difficile de lire Plotin au réfectoire que de lire Épictète. Épictète, il a au moins de temps en temps de bons petits moments qui font rire tout le monde, n'est-ce pas? Oui, la barbe sacrée, n'est-ce pas? Alors on voit très bien. Tandis que Plotin est beaucoup plus difficile. Mais Plotin a des phrases étonnantes. Plotin dit: il y a deux manières de dépendre. On dépend ou d'une réalité inférieure à nous, alors c'est une aliénation, ou accepter de dépendre d'une réalité qui est supérieure à nous, alors c'est s'ennoblir. C'est très beau ça. On reverra ça à propos de l'adoration. Dans l'adoration, on reconnaît amoureusement qu'on dépend du Créateur. Et reconnaître qu'on dépend du Créateur, ce n'est pas une aliénation. C'est au contraire un ennoblissement. Vous voyez, c'est très très important cette parole de Plotin. Vous voyez, Plotin, deuxième siècle après Jésus-Christ. À Rome. Plotin, un néoplatonicien, très grand, mystique, troisième siècle, je crois, après, jusque je dis deuxième, troisième, un mystique. On l'a découvert, un de ses disciples l'a découvert dans une extase qui a duré 3 jours. C'était pas de la folie, c'est une extase. Il contemplait Dieu. Dieu suprême. Et on voit bien que dans sa contemplation, il y avait justement cette reconnaissance amoureuse d'une dépendance à l'égard d'un être suprême. Et dans les idéologies athées, on confond la dépendance à l'égard d'un être inférieur ou à l'égard d'un être supérieur, au nom de l'autonomie. L'autonomie n'est pas un absolu. C'est pas un absolu, c'est l'amour qui est un absolu. c'est pas l'autonomie. Il y a des gens qui ont cherché l'autonomie toute leur vie, qui ont acquis cette autonomie, ne savent pas quoi en faire, ne savent plus aimer. C'est vrai, quand on aime, on est dépendant de quelqu'un. Alors si vous farouchement vous cherchez l'autonomie, vous ne serez plus aimé. Parce que si j'aime, je suis dépendant de toi. Alors est-ce que c'est bon pour moi d'être dépendant de toi? C'est bon si je t'aime. Parce que tu es mon bien. Alors c'est bon pour moi de dépendre de toi. C'est vrai au point de vue humain. Et c'est encore beaucoup plus vrai au point de vue divin. Et voyez, mais constamment, ce sont des petits blocages psychologiques qui sont terribles, ça. Parce qu'au point de vue psychologique, on a une tendance, je comprends du reste, à affirmer l'autonomie avant tout, comme presque une valeur suprême. Alors l'autonomie n'est pas une valeur suprême. La valeur suprême, c'est l'amour. Un véritable amour. Puis c'est la vérité. Puis c'est l'autonomie. Si je cherche l'autonomie, c'est pour chercher la vérité et c'est pour pouvoir aimer. Mais je ne cherche pas l'autonomie pour elle-même. Je cherche à supprimer en moi toutes les aliénations pour chercher davantage la vérité et pour aimer plus. Donc, c'est sûr que les traditions religieuses me permettent de poser le problème de l'existence d'un être premier d'une façon très urgente. Mais reconnaissez que, en droit, ce n'est pas forcément les traditions religieuses. Il y a le croyant aussi. La foi. Les traditions religieuses, et puis ma philosophie, les trois voies par lesquelles j'aboutis à l'existence de Dieu, et qui me permettent, au moins les deux premières, à découvrir une philosophie religieuse, une éthique religieuse. On verra ça. Dieu n'est-il pas immédiatement présent dans le jugement d'existence? Ceci est. Qu'est-ce que... Oui, le... De l'existence, de la présence de l'existence. Pourquoi n'avons-nous pas l'expérience de laisser participer? Ça, c'est une très belle question et très importante. Je l'ai considérée comme résolue. Alors, puisqu'on me la pose, j'y reviens. Le jugement d'existence porte sur quoi? Sur une expérience parfaite, c'est-à-dire l'alliance de mon intelligence et des sens externes, ce que je vois, ce que je touche, ce que j'entends. Vous voyez que le jugement d'existence, au fond, va toujours impliquer en dernier lieu l'alliance de l'intelligence et du toucher. Parce que quand je vois, ça peut être une hallucination. Alors, c'est pas sûr que ça existe. Quand je touche, c'est plus difficile l'hallucination. Tout le monde sait, parce que les hallucinations du toucher, c'est très très grave. Ça prouve que on est déjà très avancé sur le pas de la folie. On perd pédale complètement. Pédale, c'est les pieds, vous voyez. C'est le toucher aussi. Non. On perd le contact avec la réalité. Et le dernier contact qu'on garde, c'est le toucher. C'est pour ça que le jugement d'existence, dans toute sa force, c'est l'alliance de l'intelligence et du toucher. Ceci est. ceci existe, mais c'est artificiel. Ces fleurs existent ou elles sont artificielles. Quand vous voyez des très belles fleurs, quand vous êtes seul dans un salon, vous y introduit, on voit de très belles fleurs, qu'est-ce que vous faites tout de suite? Vous allez regarder si elles sont artificielles. Tout de suite, c'est normal. C'est tellement beau ces fleurs qui sont là. Alors quelquefois, ça sent très bon. C'est pas l'odeur réelle. Dans la ville de Grasse, c'était la ville des roses avant et des parfums de roses. Maintenant, parfums artificiels. Toute la ville en est inondée. C'est pas drôle. Tandis que quand c'était des fleurs, des roses, oh, c'était tout à fait différent. Si on a un peu, l'odorat un peu affiné, on distingue tout de suite. C'est comme celui qui a le goût affiné au point de vue des vins, on distingue tout de suite. Ensuite, tu diras même le cru, tout ça. Il y a un affinement des sens. Et je crois qu'évidemment, le goût, c'est un toucher, le goût. Un toucher interne. Le goût, le toucher, lié à l'intelligence, ça existe. Mais c'est plus difficile encore le toucher, le goût. Quand on vous enlève une dent, quand on vous fait très mal aux dents, vous avez l'impression que c'est un mal insondable. Tandis que c'était là, oh, je le vois, c'est trop rien. Tandis que vous ne pouvez pas le voir. Vous voyez, c'est l'imaginaire. Alors il n'y a plus beaucoup de toucher. C'est l'imaginaire. Qui augmente ça? Alors si on pouvait voir, si on était à la place du dentiste, le dentiste il trouve que toujours c'est pas grand chose, bon. Parce qu'il est l'acteur. Alors, avec le patient, il pâtit. Faites de la philosophie quand vous allez chez le dentiste. C'est merveilleux. On disait que saint Thomas avait une telle puissance de faire de la philosophie que quand on lui arrachait une dent, et au Moyen-Âge, on y allait. Hein. Il se mettait en méditation théologique ou philosophique, il ne sentait plus rien. Faites l'expérience. Et on devrait faire ça pour les examens de philosophie. Voilà le degré d'intensité de concentration. La philosophie nous permet d'avoir un degré de concentration toujours plus grand. C'est ça, au fond, le progrès immédiat de la philosophie, le fruit immédiat de la philosophie, c'est de pouvoir se concentrer. Alors voyez ça, hein, on demanderait pendant 8 jours les appareils d'un médecin, puis on viendrait, puis chacun viendrait, puis on toucherait. Allez, mettez-vous en contemplation métaphysique. On laisserait 5 minutes de concentration métaphysique. Pensez l'être. Alors on verrait tout de suite si c'est imaginatif ou si c'est réel. Au moment où on commence à crier. Tout de suite, immédiatement. Parce que si c'est réel, cette concentration fait que toute votre vie est prise là. Alors, on est moins conscient pour le reste. Et donc il n'y a plus de souffrance. Enlever la conscience, il n'y a plus de souffrance. C'est très beau comme exemple de concentration philosophique, vous voyez. Il ne faudrait pas que les étudiants fassent ça pour leurs professeurs, soit, en disant, on va voir le degré de concentration. S'il est capable, oui, ce sera une manière de choisir les professeurs de philosophie, ça. On l'a pas encore inventé, ça. On prend les diplômes, ce qui ne signifie rien, vous voyez. Il y a des gens qui ont des diplômes en quantité. Il y a des bêtes à examen. Alors, ils ont des tas de diplômes. Ils connaissent beaucoup de choses, mais ils ne comprennent rien. Aucun pouvoir de concentration. Répétez-moi ça. Donc dans le jugement d'existence, je touche une réalité concrète. Je touche son existence, mais je ne touche pas du tout l'existence de Dieu. Je touche l'existence d'une réalité concrète limitée. Quand je touche cette table, je touche l'existence de cette table. Et en touchant la table, j'existe. Je touche cette table, j'existe. De toucher tout à fait différent. Quand je dis j'existe, il y a une expérience. Alors, quand je dirais j'existe, je toucherai l'existence de Dieu. Ah non, ah non. Je n'ai pas de contact direct avec Dieu au plan humain. J'ai un contact direct avec Dieu au plan de la foi. Et seulement au point de vue de la foi. C'est pour ça que je n'ai pas d'expérience de laisser participer. Laisser participer, je le pose à partir du Créateur. Nous le verrons. Une fois que j'ai découvert que Dieu existe, je dis, toutes les autres réalités qui ne sont pas Dieu ont à laisser participer. Ce n'est pas du tout le fruit d'une expérience, c'est le fruit d'un jugement de sagesse. C'est-à-dire un jugement à partir de l'acte créateur de Dieu. C'est tout à fait autre chose. À partir de l'acte créateur de Dieu, je peux dire, toutes les réalités qui ne sont pas Dieu ont à laisser participer. Mais je n'ai pas touché, intellectuellement parlant, par mon intelligence, laisser participer. Ça, c'est très très important de bien le comprendre. Autrement, on fait des tas de confusions. Et des confusions grosses et graves. Vous voyez, confondre l'existence du petit chat et celle de Dieu, c'est assez gros. Ben c'est gros. Alors évidemment, j'en arrive à diviniser le chat. C'est un animal sacré. La vache sacrée. Jésus nous a libérés de ce genre de panthéisme. C'est un panthéisme. C'est condamné par l'Église, du reste. C'est un panthéisme. Dire que la vache, c'est Dieu. C'est comme l'éléphant. Il dit, je suis Dieu. C'était les Égyptiens qui disaient que le crocodile était un animal divin. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il était silencieux. J'ai vu quel philosophe a fait toute une grande... J'ai lu ça dans le temps. C'était extraordinaire. Le crocodile. Et c'est beau, tu vois, hein? Il est divin, il est silencieux. Il est dans les eaux, il est silencieux. C'est pour ça que c'est un animal divin. Il est beaucoup plus silencieux que l'hippopotame. L'hippopotame n'est pas un animal divin du tout. Il broute, c'est pas un animal divin. Tandis que le crocodile, il avale de l'eau. Il est silencieux. Vous voyez, il n'y a pas d'animaux divins. Il n'y a pas de vache sacrée. Parce que mon jugement d'existence touche une réalité limitée. Toujours mon jugement d'existence, c'est pour ça que je dis que c'est une méta-expérience. C'est à travers l'expérience sensible de telle et telle qualité que mon jugement atteint une réalité qui existe. Ceci est. Ceci est. Je ne dis pas est. Ceci est. Oui, alors, mon jugement se termine toujours à une réalité limitée. Alors, cette réalité limitée, elle est cependant en acte. Elle existe. Donc, je touche à la est quelque chose qui est en acte. Et c'est à partir de là que je pourrais dire nécessairement cette réalité limitée n'est pas première. Et elle dépend d'un autre. Et cet autre, ça ne peut être que le Créateur. Le jugement d'existence est nécessaire pour découvrir l'existence de l'être premier. Mais il n'est pas l'être premier. Je dois dépasser cette réalité que j'expérimente pour découvrir l'être premier. On verra ça. Et alors, je ne peux pas non plus alors, quand j'étais dans le jugement d'existence, comprenez toujours cette méta-expérience. L'expérience touche des qualités. Ces qualités existent. Elles sont autres que moi. Et donc, à travers ces qualités, mon intelligence, ou dans ces qualités, mon intelligence saisit que ces qualités existent. Ça, c'est immédiat. J'ai pas besoin d'apprendre ça. Quelqu'un qui refuse ça, je commencerai à avoir un tout petit peu peur. Il décolle. Si vous êtes sérieux, quoi, si vous dites, oui, quand je touche une table, je dis cette table existe. Quelqu'un dit non, elle n'existe pas. Mais écoutez, venez la toucher. Un peu de bon sens quand même. Si vous dites qu'elle existe, ça prouve que vous avez déjà un a priori philosophique. Et que vous dites que l'idée est antérieure à la réalité existante. Alors que, personnellement, toute mon expérience est inverse. Les idées que j'ai actuellement, elles viennent de mon expérience. Ou elles viennent d'un contact avec quelqu'un qui était très intelligent et qui m'a appris des tas de choses. J'ai reçu ces idées. Mais tant que je ne les ai pas découvertes moi-même dans la réalité, je ne sais pas si elles existent. Je ne sais pas si ça correspond à une réalité existante. Donc je pose un point d'interrogation. Alors, pourquoi pas d'expérience de laisser participer ? Parce que je ne peux dire que mon existence, la mienne, que je touche à l'intérieur et à l'extérieur, par mon corps, je touche mon existence. C'est-à-dire, par mon corps, mon toucher est alerté d'une réalité autre que ma main. C'est mon autre main. Alors la main droite ignore la main gauche, n'est-ce pas ? Alors je touche cette main, je touche. Par le toucher, je dis, cette main existe. Elle n'est pas mon autre main. Mais toutes les deux font partie de mon corps. Il y a un toucher à travers tout le corps. Tout le corps implique un certain toucher. Grâce à cela, mon intelligence atteint une existence autre que la mienne. Et d'autre part, quand je dis j'existe, c'est à travers telle ou telle opération de mon esprit que je peux dire j'existe, je suis. Le je suis et ceci est se rejoignent. De façon étonnante, dans la même réalité, mais sous deux aspects différents. L'aspect extérieur du corps, l'aspect immanent de l'âme. Mon essai, mon exister, quand je dis je suis, je ne peux pas dire tout de suite qu'il est participé. Je peux dire qu'il est limité. Je ne peux pas pas dire qu'il ait participé. Si je dis qu'il ait participé, je dis qu'il vient d'un autre, qui est antérieur à moi. Or, l'expérience que j'ai de tous les êtres qui sont à côté de moi, aucun de ces êtres n'est cause de mon existence. Aucun. Donc je ne peux pas dire « je suis à cause d'un autre, cet autre, je ne l'ai jamais rencontré ». Mon existence ne dépend pas. Vous allez me dire « oh mais vos parents, nos parents, ah nos parents sont source, c'est très vrai, sont source de vie et d'un être autre qu'eux, ça c'est très vrai. Mais l'exister de ce petit être ne dépend pas des parents. La preuve, c'est que les parents désirent que cet être existe. Et s'il meurt, ça prouve que les parents ne sont pas cause de son existence. Les parents peuvent désirer avoir un enfant et ils n'en ont pas. Toujours. Donc, ils sont cause de façon très particulière, dépendante d'une quantité d'autres choses. Ils ne dominent pas la question. Personne ne domine la question. Les anciens avaient très bien compris ça. Très très bien. En disant que on est comme l'instrument de l'espèce pour la procréation. On n'est pas mesure de la création, de la procréation. On ne la domine pas. On voit bien que mon exister est limité. Il dépend d'un autre. Mais quel est l'autre? Ça ne peut pas être mes parents parce qu'ils sont comme moi. Ils ont eu aussi une existence limitée. Il procède d'un autre. Alors je reviens tout de suite. Je remonterai au premier. Et le premier, d'où il dépend? Quel est l'autre? Oui, point d'interrogation. Donc je n'ai pas l'expérience de laisser participer, puisque je ne connais pas l'autre qui me permettrait de comprendre ce que c'est que cet laisser participer. Prenez l'exemple très simple. Vous avez un vêtement noir. Vous passez auprès d'une porte qu'on vient de peindre en blanc. Ne faites pas attention. Puis vous vous dites, tiens, il y a du blanc. D'où ça vient ça? Ce blanc est participé. Ça vient pas de moi, c'est quand même pas... Ce vêtement est tout neuf, il est noir... Quand même, il ne va pas produire le blanc comme ça. Mes cheveux peuvent être blanchis, même s'ils sont noirs. Mais le vêtement, non, jamais vu ça. Donc ça vient de l'extérieur, ça vient d'un autre. Ah, on me dit à ce moment, ah mais tu t'es frotté à la porte, on vient de la peindre. On aurait pu mettre un écriteau quand même. Hein. Je participe du blanc de la porte. Je ne peux le dire qu'au moment où je sais que la porte est cause de ce blanc. Donc laissez participer, je ne peux pas le dire, je ne sais pas d'où ça vient. Ah, j'ai entendu ça, oui, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, tu as un laissé participer. C'est pas un bon vieillard qui vous a dit, tu as un laissé participer. Mon petit, souviens-toi toute ta vie que tu as un laissé participer, qui dépend d'un autre. Alors il se souvient de ça. C'est pas, mais il n'en a pas l'expérience, c'est un autre qui l'a dit. Moi, j'ai aucune expérience de mon laissé participer. Je dis, j'ai un essai participé comme un jugement de sagesse. Je n'ai jamais touché. Je n'ai jamais atteint. Je l'atteins comme une conclusion. et non pas comme une donnée immédiate, évidente, dont j'ai l'expérience. Alors je peux répéter ça et croire qu'en répétant j'ai l'expérience, mais c'est une répétition, c'est pas une expérience. Ce que j'acquiers en le répétant, je ne l'ai pas par expérience. J'allais presque dire, vous voyez, c'est un corps étranger. Tout ce que vous répétez, sans en avoir eu l'expérience, ou sans en voir d'où ça vient, c'est un surmoi intellectuel. Et quelquefois, il y en a tellement gros qu'on a envie de le rejeter. Pour ne pas dire autre chose. On a envie de le rejeter. C'est un surmoi intellectuel. Il faut faire attention, parce que quand vous aurez trop de surmoi intellectuel, vous viendrez bête. La philosophie est faite pour nous libérer de tous ces surmois intellectuels, de tous les a priori, et savoir ce qui est objet d'expérience, ce qui est le fruit d'un raisonnement comme une conclusion, ce qui est acquis comme un principe par l'induction. Ça, c'est propre de la philosophie qui me permet de saisir ça avec netteté. Quelle différence faites-vous entre le « je suis » et le « moi » ? Si la philosophie est une recherche très personnelle, n'est-elle pas nécessairement subjective ? Non. On peut être très personnel et être très objectif. On peut être très subjectif et être très objectif. Moi, je veux les deux. Si je répète, je ne suis pas personnel, c'est pas subjectif. Si je vis, ah, c'est très subjectif, c'est très personnel. Mais la vie peut être objective. Qu'est-ce qui m'empêche de vivre et d'être objectif? Personne ne m'empêche. Je découvre ça, je dis, c'est une table. Et comme je suis un connaisseur raffiné de la table, oh, je vois tout de suite, c'est une table de style, ça, oh, tout de suite, je vois très bien, venez, c'est une table. Parce que je connais beaucoup d'autres tables. Est-ce que je suis plus objectif? Parce que je connais beaucoup de tables. Au contraire, je suis bien plus objectif. Je discerne immédiatement que cette table dépend de telle date, de tel atelier. C'est celui-là qui l'a fait. Mon objectivité va beaucoup plus loin, parce que j'ai un acquis. Et je suis subjectif quand j'ai un acquis. Et plus j'ai d'acquis, plus je suis subjectif, c'est sûr. Mais je domine mon acquis. Ce n'est pas une avalanche. Je domine mon acquis. Ce n'est pas du surmoi. Je domine et je m'en sers. Et le jour où je me sers de mon acquis, je me sers de ma subjectivité pour aller plus loin dans l'objectivité. C'est ça la philosophie. C'est magnifique ça, c'est beau, vous voyez. Alors, la fameuse querelle entre subjectif et objectif, attention, comprenons bien. La subjectivité est merveilleuse dans l'ordre de l'affectivité. Toute affectivité est subjective. Mais une affectivité subjective peut être très objective. Oui. Quand je voyais un jeune fiancé qui était mon étudiant, il dit, père, j'aime beaucoup, alors je ne sais plus très bien si c'est objectif. Est-ce que ça ne vous dérangerait pas de la voir? Vous me direz tout de suite. J'en suis sûr, vous me direz tout de suite. Parce que vous n'avez pas la même subjectivité que moi, heureusement. Parce qu'on est très subjectif, c'est vrai. Quand on aime beaucoup quelqu'un, subjectivement, tout est bien. Tout est parfait. Oh, ça vient d'elle. Oh, c'est merveilleux. Avant, on s'était mis en colère. Mais d'un côté, mais non, c'est elle qui a fait ça. Oh, alors, c'est merveilleux. Mais la subjectivité enveloppe toute l'objectivité. Alors on dit, c'est un peu exagéré. Cette personne voit tout sous l'angle d'une telle, parce qu'il l'aime. pense à la subjectivité de Dieu. Dieu est amour. En Dieu, subjectivité et objectivité ne font qu'un. C'est étonnant, ça. C'est bouleversant. Dieu n'est pas du tout anonyme, quoi. Pour être subjectif, il faut être anonyme. Pour être objectif, il faut être anonyme. Mais c'est de la bêtise, ça. L'anonymat ne me permet pas du tout de connaître. Dans un monde d'abrutis, l'anonymat passe devant les autres. Mais ça, c'est un monde d'abrutis. Alors l'anonymat prime. Heidegger a des paroles sévères sur le « on », l'anonymat. Quand vous recevez une lettre d'injure qui n'est pas signée, vous la fichez au panier. Aucune valeur, anonyme. Et quelqu'un dira « Ah, mais c'est une objectivité parfaite !» Alors on a envie de dire « Ça m'est bien égal, c'est anonyme. » Il ne peut pas y avoir une objectivité parfaite anonyme. Impossible. C'est contradictoire dans les termes. Il n'y a que la logique qui est une objectivité anonyme. Mais la logique, c'est pas l'exister. C'est pas la réalité. C'est le fruit de mon intelligence. Je connais quelqu'un qui est philosophe, tu vois, qui se dit philosophe. Et qui veut tout ramener à la logique. En me disant, il n'y a que la logique qui est objective. Alors, si pour vous, c'est ça, l'objectivité, non, alors là, non. Vous voyez, on a fait beaucoup de mal en divisant comme ça. Il faut comprendre que si nous sommes un grand vivant dans l'ordre de la connaissance, dans l'ordre de l'amour, la subjectivité est très grande. Mais cette subjectivité, quand elle est au niveau de l'esprit, peut être objective. Je vis quand je pense. Et plus je pense à une personne digne, grande, plus je l'aime, plus ma subjectivité augmente. Et plus mon objectivité peut être pénétrante. Je distingue bien subjectivité et objectivité. Je les distingue, mais je ne les oppose pas. C'est sur deux plans différents. Quand vous analysez la connaissance, toute connaissance, quand vous analysez la connaissance, vous distinguez l'aspect subjectif et l'aspect objectif. C'est dans une analyse. Et donc, objectivité et subjectivité coopèrent à la connaissance. C'est pour ça que s'il n'y a que l'objectivité, il n'y a pas de connaissance. Cette connaissance, elle vient d'où ? Elle tombe du ciel. Il faut quand même quelqu'un qui ait pensé. Et s'il y a quelqu'un qui a pensé, c'est subjectif. Vous voyez, il faut faire grande attention à ces slogans, objectif, subjectif, et on ne les pense pas. Alors on les calme comme ça. Alors comprenons bien, une philosophie n'est-elle pas l'expérience de la subjectivité de celui qui l'élabore ? Ah ça, c'est très amusant. J'ai jamais pensé, vous êtes philosophe de l'objectivité de la subjectivité. Une philosophie n'est-elle pas l'expérience, donc c'est objectif, de la subjectivité de celui qui l'élabore ? Si cette philosophie est la philosophie du nombril, oui. Alors, c'est très vrai. C'est la subjectivité, c'est l'expérience de la subjectivité de celui qui pense. Oui. Alors c'est une objectivité qui m'est donnée en raison de la subjectivité. j'aime, je suis d'accord. Que je peux étudier mon amour. Je peux l'étudier. Je sais que mon amour vient de moi et j'étudie cet amour. Quand je fais la philosophie de l'amour, je suis obligé de dire que j'ai eu une expérience d'amour. Mais ma grande expérience d'amour, est-ce que c'est moi? Mais non. Est-ce que quelqu'un aurait le culot de dire que sa plus grande expérience de l'amour, c'est lui? Il n'y a que Jean-Jacques qui dit ça. Il n'y a que Jean-Jacques qui veut dire ça. Je ne sais pas si on a aimé. On ne peut pas dire que ma plus grande expérience d'amour, c'est de m'aimer, mais non. C'est d'aimer quelqu'un autre que moi. C'est ma plus grande expérience de l'amour. Et si c'est ma plus grande expérience de l'amour, je vois que cette subjectivité, elle est objective, puisque c'est l'autre que j'aime. C'est mon bien. Et je fais la philosophie de cet amour. Vous voyez ça? Faites un petit schéma, hein, vous allez tout de suite comprendre. Parce que c'est très important, ça. C'est une question capitale, ça. Parce que, en dernier lieu, c'est la négation totale de l'objectivité. J'ai eu une conférence à Fribourg, d'un Français. C'est pour ça que j'y allais. C'était le directeur du journal Le Monde. Et pas celui-ci, le grand précédent. Et sa conférence était sur l'objectivité. Alors, je me suis beaucoup amusé. C'était extraordinaire. Alors, il a dit au début, j'aime de faire une conférence sur l'objectivité, ici à Fribourg, dans ce lieu thomiste. L'aide, l'objectivité de la connaissance. Bien, je vais vous parler de l'objectivité du journaliste. Eh bien, l'objectivité du journaliste, c'est sa subjectivité. Ah, ça a été dit sans aucun, comme ça. Puis il a développé. Quand je dois aller à tel lieu pour faire un petit article sur telle chose qui s'est passée. Vous comprenez bien que j'y vais en sachant, en y réfléchissant. Oui, c'est à tel endroit. Oui, ce sont des gens qui pensent comme ça. Tel autre endroit. J'ai mon idée d'avance. Et je vois que tout colle parfaitement à mon idée. Voilà l'objectivité du journaliste. C'est extraordinaire. Hein, je vous affirme, je n'exagère rien. C'est exactement ça. Alors avec tas d'exemples. Il a dit lui-même cette phrase. Pour un journaliste, l'objectivité, c'est sa subjectivité. Alors, c'était évidemment, c'était dans une conférence. Donc il faisait la mousse. Venez, on agitait, ça montait, ça montait. Mais il y a beaucoup de vrais. Le journal Le Monde qui veut être objectif de la subjectivité de ses journalistes. Alors voyez, vous avez comme ça la question. Et c'est très très vrai ça, comme on a de la peine, parce que les journaux prennent parti. Ils sont pour tel ou tel. Alors, le philosophe n'est pas journaliste. Il pourrait pas être journaliste. C'est impossible. D'abord, il serait rayé tout de suite du journal dans lequel il serait. Parce que c'est sûr, peut-être premier jour, ça tomberait bien, par hasard. Mais le second jour, c'est autre chose, ça pourrait plus. C'est impossible. Parce que s'il cherche la vérité, il doit dire à un moment donné, j'aime beaucoup mon directeur, et la vérité plus encore. Il serait obligé de dire ça, un jour ou l'autre. J'aime beaucoup tel collaborateur, mais la vérité plus encore. C'est à ce moment-là. Très vite. Ça c'est sûr, c'est impossible autrement. Alors voyez, l'amour, philosophiquement l'amour. L'amour provient d'une personne. L'amour spirituel. L'amour spirituel, l'amour humain spirituel. L'amour d'une personne. Ce bien est une personne. Je peux étudier l'amour que j'ai de moi. Parce que je m'aime quand même. C'est sûr. Donc je peux étudier l'amour propre qu'on a de soi. C'est intéressant, du reste, d'étudier ça. On m'avait invité une fois dans un congrès fémologique. J'ai dit, je ne suis pas fémologue. Il m'a dit, ça fait rien. J'ai pris le sujet le plus proche, l'amour de soi. Parce que l'amour de soi, vous comprenez, je prends l'aspect subjectif de l'amour. Alors on peut arriver à être assez proche. J'avais Lévinas à côté de moi. Et au fond, c'est ce qu'il cherche, Lévinas, l'amour de soi et l'amour d'autrui. Comment arriver à combiner les deux? C'est intéressant, l'amour de soi. Mais l'amour de soi, je ne m'en occupe pas tellement. Ce qui m'intéresse, c'est d'aimer telle personne. Alors à ce moment-là, l'amour à l'égard d'une autre personne n'est plus du tout le même. L'amour par nature est extatique. On sort de soi pour rejoindre celui qu'on aime. Quand je m'aime, comment je fais pour sortir de moi? Je me dédouble. C'est pour ça que c'est assez malsain de s'aimer trop. Parce qu'on se dédouble. Ah, ce que j'aime en moi, telle chose. Oui, oui. Oui, mais il y a autre chose. Oui, on se dédouble. Et c'est pour ça que l'amour de soi, quand il devient, maladif. C'est pas sain. C'est ce que Gabriel Marcel disait. C'est le verre dans la pomme d'amour de soi. Et c'est juste, c'est assez juste. Alors vous comprenez, si je veux étudier une pomme, je peux étudier le verre dans la pomme. Si je veux étudier l'amour, je ne vais pas étudier l'amour de moi. J'étudie l'amour de quelqu'un que j'aime. Et alors à ce moment-là, je fais une philosophie qui implique une subjectivité, puisque tout amour est relié à la personne qui aime, et inséparable de la personne qui aime. Donc c'est subjectif, l'amour. Chacun d'entre nous, nous aimons avec ce que notre être. C'est pas du tout abstrait, l'amour. C'est très personnel. Mais je peux étudier ce qu'il y a d'objectif dans l'amour. Il y a quelque chose d'objectif dans l'amour, c'est le bien. Donc vous voyez, c'est ça qui serait très intéressant à bien voir. Le « je suis » essaie d'étudier ce qui est objectif en moi. L'exister. Tandis que le « moi » m'enferme dans ma subjectivité. Si je suis attentif, parce qu'on ne dit pas « moi, je suis ». C'est curieux, vous pouvez dire « moi, je suis ». Vous voyez bien que donc le je suis ajoute quelque chose au moi. Tandis que vous ne dites pas je suis moi. Non. C'est une tautologie. Je suis moi. Tandis que vous dites moi je suis. C'est très curieux. Le langage indique bien là quelque chose que je peux saisir. Quand je dis je suis, je veux saisir mon exister. Tandis que quand je dis moi, j'exprime mes sentiments. Aujourd'hui, ne me touchez pas, je suis de mauvaise humeur. Vous ne dites pas, j'existe aujourd'hui de mauvaise humeur. Non, c'est moi qui suis de mauvaise humeur. C'est tout à fait subjectif. Parce que si je suis de mauvaise humeur, il peut y avoir à côté de moi quelqu'un de très bonne humeur. Je ne suis pas la règle et la mesure de tous ceux qui sont de mauvaise humeur ou de tous ceux qui sont de bonne humeur. Non, c'est subjectif. Si on part de l'hypothèse de l'existence de Dieu, n'est-il pas normal de le trouver à la fin? N'est-il pas là, pétition pas? Ah non, je dis hypothèse. Qui dit hypothèse dit recherche d'un possible, d'une réalité possible. Quand je parle de l'hypothèse de Dieu, je dis il est possible. Il est possible que Dieu existe. Ce n'est pas la même chose de dire il est possible que Dieu existe, Dieu existe. Oui, donc, il est possible que Dieu existe ne contient pas Dieu existe. Parce que le possible ne contient jamais l'acte. Le possible, c'est toujours quelque chose d'imparfait. Il est en acte, c'est parfait. Le possible ne contient pas l'imparfait ne contient pas le parfait. Il peut être comme une orientation. Du reste, c'est pour ça que je parle de l'hypothèse. N'y a-t-il pas la pétition de principe? C'est non, c'est la différence entre le possible et l'acte. Quelle différence y a-t-il entre un regard critique et un regard philosophique? Le regard philosophique dépend du jugement d'existence. Ceci est. Donc, il est objectif. Sans supprimer la subjectivité. Je suis tout à fait d'accord que je ne peux pas faire de la métaphysique comme saint Thomas en faisait, comme Aristote en faisait. Et chacun d'entre vous, vous faites de la métaphysique autrement que moi. C'est pour ça. Mais si notre philosophie cherche la réalité, ce qui existe, elle atteint quelque chose d'objectif. Et là, nous pouvons voir par rapport à l'objectivité, si une philosophie est plus parfaite qu'une autre. C'est-à-dire si elle pénètre davantage dans la réalité, si elle va plus loin dans la réalité, et si elle va aller plus loin. Tandis que l'aspect critique, c'est étudier le vécu de mon intelligence. Toute critique présuppose une connaissance. Je peux critiquer l'amour que j'ai pour telle personne. Je peux critiquer telle connaissance que j'ai de telle personne. Je ne sais pas, dès que je vois telle personne, ah, c'est terrible, j'ai l'impression que... Non, ça va pas. Alors, je peux critiquer, est-ce que ce sentiment que j'ai est passionnel, instinctif, raisonnable? Pourquoi, dès que je rencontre quelqu'un, j'ai envie de tourner le dos? Puis petit à petit, on peut dire, ah, je suis victorieux de ça, ça m'est égal maintenant. Je peux rencontrer n'importe qui. Non, ça m'est égal. J'ai dépassé cet aspect instinctif. C'est vrai, on peut avoir ses antipathies. Comme on peut avoir ses sympathies, c'est normal. On peut critiquer une sympathie. On peut critiquer une antipathie. Il faut avoir l'antipathie ou la sympathie pour la critiquer. Et quand je vis de la sympathie, je ne critique pas. Quand je vis de l'antipathie, je ne critique pas. Je me laisse aller à la sympathie et à l'antipathie. Quand je connais, je ne critique pas. Je dis ceci est. Il existe nécessairement Dieu, je ne critique pas. Mais je peux ensuite dire, est-ce que de fait, ce jugement critique, ce jugement d'existence, est vrai? Puis-je critiquer le jugement d'existence? Très grave question. Puis-je critiquer le jugement d'existence? Au contraire, ne puis-je pas le critiquer? Si je critique le jugement d'existence, je me mets à la place de Dieu. Je me fais Dieu. Dieu seul peut me critiquer le jugement d'existence. Parce que dans ce jugement d'existence, ceci est, il n'y a que moi et la réalité. Il n'y a pas de concierge. concierge, par définition, critique toujours. Là, il n'y a pas de concierge. Parce que le concierge, c'est toujours celui qui a un second regard. C'est pour ça qu'on dit la critique est aisée. Et réaliser la chose, c'est pas du tout aisé. Parce qu'il suffit d'un rien pour critiquer. Surtout dans notre monde d'aujourd'hui. On est hyper critique.